Décryptage, Marie Casadebé.
L'Aquarius a mis le cap vers Valence en Espagne, suivi de deux autres navires italiens. À leur bord, 630 personnes secourues trois jours plus tôt en mer Méditerranée. 630 migrants qui se sont retrouvés dans une tempête qui les dépasse de loin. Il aura fallu trois jours pour que le bateau humanitaire trouve un peu un port d'accueil. Après le refus de l'Italie, puis de Malte, le silence de la France et les échanges d'accusations entre voisins européens. À qui la faute? À qui la responsabilité de ces rescapés dont plus d'une centaine d'enfants et plusieurs femmes enceintes? Quelles autres questions cette tempête soulève-t-elle? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Claire Audier.
Bonsoir.
Vous êtes juriste, experte des migrations et de la politique européenne en la matière, membre du GISTI, le groupe d'information et de soutien des immigrés. Et bonsoir Antoine Laurent.
Bonsoir.
Vous êtes responsable des opérations maritimes à SOS Méditerranée, cette association européenne de sauvetage en mer, qui opère donc à bord de l'Aquarius aux côtés de Médecins Sans Frontières. Le cauchemar de ces 630 passagers de l'Aquarius n'a pas commencé dimanche avec le bras de fer entre l'Italie et Malte, mais bien avant. Aloïse Vimard, le coordinateur de MSF sur le bateau, nous raconte leur sauvetage au large de la Libye.
Le sauvetage, il est très difficile. C'était en pleine nuit. Il y a des personnes qui sont tombées à l'eau en sauvetage. J'ai eu le sauvetage, donc ça a été un événement traumatisant. Ils avaient déjà passé 12 heures sur ces canaux en plastique. Généralement, des gens qui sont épuisés, qui ont été exposés à des niveaux de violence terrifiants. Ils ont extrêmement peur d'être renvoyés en Libye. Donc on essaye de les rassurer, de leur dire qu'on va les amener dans un lieu sûr et que les autorités italiennes ne peuvent absolument pas désembarquer les gens en Libye.
Antoine Laurent, aujourd'hui ces 630 rescapés sont répartis sur trois navires. On le disait, ils sont en route vers Valence. Comment vont-ils aujourd'hui ?
Pour être tout à fait honnête et sans exagérer, ils sont épuisés, les équipes aussi. Ça a été extrêmement éprouvant, on l'a entendu dans l'enregistrement, les sauvetages ont été compliqués en pleine nuit avec un stress énorme, des gens qui sont tombés dans l'eau, quelqu'un qui a été réanimé après s'être noyé, et puis toute cette attente, ce stress qui s'est accumulé, c'est l'épuisement et vraiment la désolation à bord, l'indignation.
On entend aussi des gens qui ont peur de revenir sur leur pas, d'être renvoyés en Libye. Claire Audier, ça c'est totalement impossible.
D'être renvoyés en Libye?
En tout cas, en l'occurrence, maintenant qu'ils sont en
maintenant,
route
maintenant,
vers
Valence. En revanche, ça arrive, oui, on comprend qu'ils aient peur et qu'ils soient terrifiés à cette perspective, puisque toutes les informations qu'on a sur la Libye, y compris une qui a fait le buzz il y a quelques mois sur ces scènes de vente d'esclaves, mais il n'y a pas que ça, hein, et ça dure depuis très longtemps, c'est des violences, de se trouver aux mains des trafiquants de toute nationalité, les centres de détention, les prisons, c'est vraiment l'enfer, oui.
Antoine Laurent, quand est-ce qu'ils sont attendus à Valence ?
Alors, on est prévu d'arriver à Valence samedi soir, après un périple en Méditerranée. C'est clairement un périple, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver, puisque les conventions sont assez strictes sur le sujet. On prévoit de passer entre la Cerdagne et la Corse pour des raisons météorologiques. Voilà.
Et cela veut dire autant de jours aussi pendant lesquels l'Aquarius ne peut pas intervenir ailleurs en Méditerranée?
Exactement, l'Aquarius et même d'ailleurs aussi les deux autres navires qui nous escortent, qui sont des gros navires avec une grosse capacité, qui pourraient être très utiles au large de la Libye pour effectuer des sauvetages. Les conséquences sont même directes, puisqu'on a eu hier 12 morts qui ont été rapportés après un sauvetage d'un navire de l'armée américaine. Près de 1000 personnes ont été secourues dimanche par un navire italien, ils ont débarqué ce matin à Catane. Donc le besoin, il est pressant, il est urgent, il est toujours existant, ça fait longtemps, certes, mais c'est toujours une crise humanitaire.
Claire Audier, est-ce que l'errance dans laquelle l'Aquarius s'est retrouvé est inédite ou ça vous rappelle finalement d'autres épisodes de pays européens comme ça qui ont pu se renvoyer la balle?
Alors le petit jeu entre Malte et l'Italie a existé en 2004 avec un navire allemand qui avait opéré des sauvetages. C'était beaucoup moins de passagers, mais on a déjà eu ce jeu de ping-pong entre les deux pays. Ça nous rappelle des souvenirs très anciens et très sinistres, puisque juste avant la Seconde Guerre mondiale, cette errance de bateaux chargés de réfugiés qui cherchaient une terre d'accueil a marqué cette période des années de la du milieu des années 30, avec en particulier un navire qui s'appelle le Saint-Louis, qui est parti d'Allemagne, qui est allé à Cuba, qui s'est fait refuser l'accès à Cuba, qui est ensuite demandé à débarquer aux États-Unis, qui s'est fait refuser l'accès aux États-Unis, et qui est revenu en Europe et qui a échappé de justesse à un retour en Allemagne, c'est-à-dire pour ces juifs allemands qui fuyaient le régime nazi, pour se retrouver in extremis dans deux, trois pays européens qui ont accepté de les décharger. Donc c'est des souvenirs très sinistres.
Alors bien plus proche de nous, donc ce cas de l'Aquarius, on va remonter un peu le fil de dimanche pour bien comprendre d'où est venu le blocage. Il faut sûrement rappeler déjà, Antoine Laurent, que l'Aquarius, donc basé en Sicile, n'intervient que sur ordre du Centre de coordination des secours maritimes italiens. Ça veut dire que c'est lui qui vous indique quelles embarcations sont en détresse et ont besoin d'une aide.
Oui, la zone est large. L'Aquarius ne peut pas tout voir et tout faire. C'est une organisation qui est déjà assez rodée dans la zone et les Italiens savent le faire puisque ça fait près de 20 ans qu'ils font ça. Quand il y a des alertes, les signaux sont centralisés sur le centre de coordination à Rome, hein, le MRCC, qui va ensuite optimiser les moyens présents sur zone. Il va utiliser les navires commerciaux, les navires militaires, les navires des gardes-côtes, les ONG pour choisir qui va aller faire quoi. Donc il n'y a aucune initiative de prise de manière indépendante que ce soit les ONG ou les autres, sauf si extrême urgence vraiment en face de nos yeux, mais de toute manière on rapporte immédiatement au MRCC. Et donc au moment où on reçoit l'alerte, que ce soit du MRCC ou que ce soit nous qui trouvons une embarcation, les procédures de sauvetage en mer se déclenchent jusqu'à ce que les personnes soient débarquées dans un lieu sûr.
Et alors là, le centre de coordination des maritimes italiens était censé vous indiquer aussi dans quel port vous deviez débarquer ces 630 rescapés.
Voilà, ils avaient légalement cette responsabilité d'assurer la coordination, ça ils l'ont fait, ils le font bien comme ils savent le faire, et aussi de trouver une solution pour débarquer ces personnes. C'est ce qu'ils font d'habitude, seulement là, le MRCC, les gardes-côtes italiens sont sous la pression d'un gouvernement qui est cynique et qui a demandé à ce MRCC de laisser l'Aquarius en attente pendant près de 48 heures. Et là, on est toujours en transit.
C'est-à-dire qu'on vous a demandé de rester en stand-by au milieu de la Méditerranée?
Voilà, on nous a demandé dimanche soir, pour être précis, de stopper juste avant de rentrer dans la zone de sauvetage italienne au large de Malte, à une trentaine de milles, ce qui est contraire au règlement, puisque là, il y a une notion d'efficacité dans les sauvetages, mais aussi d'immédiateté. Et j'entends partout le fait qu'il faut que ce soit le port le plus proche, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas une question de distance, c'est une question de commodité, disons.
De disponibilité,
il faut que ce soit le plus rapide, le plus efficace, et donc s'il y a un port pas loin qui puisse assurer la réception des personnes, c'est lui qui va les prendre en charge. Pas forcément le plus proche, mais en tout cas le plus capable.
Claire Audier, est-ce que l'endroit même où on a demandé à l'Aquarius de s'arrêter a son importance, on dit, si finalement, entre les eaux italiennes et les eaux maltaises, si j'ai bien compris?
Oui, enfin, en l'occurrence, les eaux internationales, ça n'a pas beaucoup d'incidence, puisque le droit de la mer prévoit que ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que quand il y a péril, quand il y a danger pour la vie des passagers, c'est effectivement le port proche le plus sûr qui doit les accueillir, quelles que soient les circonstances.
Alors, ça veut dire que là, dans le cas bien précis, quel pays aurait dû ouvrir un port à l'Aquarius?
L'Italie, clairement, qui, en tout cas, avait la responsabilité d'avoir donné les indications à l'Aquarius, le MRCC, comme il a été dit, le centre de coordination du sauvetage maritime italien, devait assumer la prise en charge de ces personnes dans la mesure où les dangers étaient avérés.
Antoine Laurent, à quel moment alors intervient Malte dans cette histoire, ce dimanche-là?
Dans la journée de dimanche, le MRCC italien a sollicité Malte, et c'est à ce moment-là où nous on a compris que Salvini était derrière le coup, pour demander à Malte de prendre le relais. C'est-à-dire qu'un MRCC, lorsqu'il a la responsabilité d'un sauvetage, il ne peut s'en dédouaner et s'en débarrasser que si un autre MRCC reconnu accepte de prendre en main l'opération. Il n'y a pas d'MRCC en Libye, l'Italie ne peut pas passer à la Libye la main. Ils le font quand même, c'est déjà un bon écart, mais on pourra y revenir. Donc là, Malte a refusé, et ils en avaient le droit, puisque ce n'était pas eux en charge initialement, ils avaient tout à fait le droit de dire non. On ne se sent pas capable de le faire, on ne veut pas le faire, c'est à vous de le faire. On aurait pu y aller, hein, on aurait pu aller à Malte, mais bon, ils ont refusé pour des raisons qu'on connaît.
Alors les maires de Naples et de Tarente, donc dans le sud de l'Italie, ont proposé leur port. Ça c'était donc avant la proposition espagnole. L'île française aussi s'est manifestée. Est-ce que vous auriez pu choisir l'une de ces destinations, sachant que les autorités nationales, elles, n'avaient pas donné leur feu vert?
Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a aucune initiative de prise au cours de ces opérations de notre part. On fait tout sous les instructions du MRCC. Or, c'est sous la compétence du ministère des Transports et du MRCC de choisir où ces personnes doivent être débarquées. L'initiative de ces mairies était tout à fait honorable, mais ce n'est pas leur compétence, malheureusement.
Claire Audier, on comprend donc que Rome, que l'Italie était vraiment responsable dans le cadre de l'Aquarius. Est-ce que l'Italie pourrait être sanctionnée pour son attitude ?
Oui, s'il y avait des plaintes déposées, d'ailleurs je crois qu'il y en a une en Italie sur la base de la non-assistance à personne en danger, puisqu'il y a eu violation d'au moins trois textes différents, textes de droit international, les conventions sur le droit de la mer, comme on l'a dit, avec cette obligation d'accueillir les personnes en danger, mais il y a eu aussi violation de la Convention européenne des droits de l'homme qui oblige à respecter des obligations en matière de sauvetage et de droit à la vie, et en l'occurrence le droit à la vie et de fausses personnes étaient menacées. Et enfin, parce qu'on ne sait pas qui était à bord, mais qu'il y avait potentiellement des personnes en besoin de protection, des réfugiés potentiels, violation de la Convention de Genève et d'un principe très important qui est le principe de non-refoulement, qui oblige tout État à accueillir les personnes qui risqueraient pour leur vie si elles étaient renvoyées dans le pays dont elles viennent. Donc on a trois chefs, si on peut dire, d'inculpation qui permettraient de poursuivre le gouvernement italien. Mais il faut savoir que pour ça, il faut des victimes qui déposent plainte dans des procédures extrêmement longues qui ne sont absolument pas dans la temporalité de l'urgence à laquelle on fait face en ce moment.
Ce sera finalement donc le port de Valence en Espagne qui accueillera le bateau, l'Aquarius et les deux autres navires, donc avec ses 630 rescapés. Juan Ribó est le maire de la ville.
Je viens de parler avec la vice-présidente du Conseil. Nous sommes d'accord pour éviter qu'une autre tragédie comme celle de l'enfant Elan il y a quelques années se répète. Nous croyons qu'il est très important d'agir ainsi, surtout au moment où le gouvernement et les idées d'extrême droite s'installent et s'expriment en Italie pour abandonner à leur sort plus de 621 réfugiés. Il nous semble qu'il est absolument inhumain de laisser un bateau à la dérive dans ces conditions.
Claire Audier, est-ce que l'initiative du tout nouveau gouvernement espagnol, social-démocrate, de Pedro Sanchez, marque une rupture avec le précédent ? Parce que finalement, dans cette affaire, on peut y voir beaucoup de gestes politiques.
Beaucoup de gestes politiques, en effet. Je crois que ce qu'il faut surtout... on a la conjonction de deux événements nouveaux. C'est effectivement deux changements de gouvernement qui arrivent au même moment, avec un gouvernement italien qui décide de prendre en otage les réfugiés pour faire pression sur l'Union européenne, enfin les réfugiés, et en tout cas les passagers de ce bateau, pour faire pression sur l'Union européenne et finalement pousser les États de l'Union européenne à des responsabilités qu'ils n'ont jamais voulu assumer. Et par ailleurs, effectivement, une initiative d'un nouveau gouvernement espagnol qui veut se démarquer du précédent, sachant toutefois que l'Espagne généreuse, et qui peut l'être parce qu'elle accueille peu de réfugiés et de migrants par rapport à la moyenne des pays européens, jusqu'à il y a très peu de temps, je ne sais pas si ça va changer, refoulait de façon illégale à sa propre frontière sud des migrants qui essayent de la franchir.
Alors c'était peut-être effectivement pour envoyer un signal, celui de Matteo Salvini, assez clair aussi. Ce départ vers l'Espagne pour le ministre de l'Intérieur, donc de l'Aquarius, c'est clairement une victoire pour son pays. Selon lui, Antoine Laurent, l'Italie a trop longtemps assumé seule le problème de l'immigration via la Méditerranée. Est-ce que vous lui donnez raison, au moins sur ce point ?
Je n'ai une fois pas cet honneur. Non, il faut voir les choses sur plusieurs plans. Il y a des histoires de politique extérieure, des histoires de crise humanitaire en Méditerranée centrale qui nécessitent une réponse spécifique. Et il y a les histoires de partage de la responsabilité sur le sujet migratoire au sein de l'Europe. Ce sont des sujets qui sont des temporalités et d'espaces complètement différents. Il ne faut pas tout mélanger. Donc je ne donnerai pas raison à Salvini pour les horreurs qu'il nous a fait ces derniers jours. Néanmoins, c'est vrai que l'Italie, ça fait très longtemps, et ça date pas de Salvini, ça fait très longtemps, Salvini est d'ailleurs plutôt un symptôme qu'autre chose, ça fait très longtemps que l'Italie est sous pression, tout comme l'Espagne et la Grèce. Et il est temps que l'Europe, enfin, prenne ses responsabilités, comprenne que nous, on est face à un problème structurel et non conjoncturel, et qu'on puisse enfin réfléchir ensemble et répartir ces personnes de manière cohérente et dans le respect de leur dignité.
Claire Audier, à quel point l'Italie est aux avant-postes de cette immigration vers l'Europe de l'Ouest?
L'Italie et la Grèce sont clairement les deux pays qui depuis 2015 assument de fait la responsabilité et la charge des arrivées de migrants en Méditerranée pour tout le reste de l'Europe, et le reste de l'Europe se débarrasse à bon compte sur ces deux pays de responsabilité à la fois morale et juridique, parce que il y a une politique européenne d'asile et d'immigration qui n'est absolument pas assumée. Et cette répartition équitable, ce partage des responsabilités n'est absolument pas appliqué. On se souvient peut-être qu'en 2015, quand la Commission européenne a grand renfort de persuasion, a obtenu des États membres qu'ils se partage 160 000 personnes qui se trouvaient en Grèce et en Italie sur deux ans. Ces opérations de relocalisation, comme on les a appelées, n'ont abouti à ce que finalement seulement 30 000 personnes soient partagées, avec certains pays qui ont complètement refusé après avoir accepté, d'autres qui en ont pris 10 fois moins que ce qu'ils avaient promis. C'est le cas de la France notamment, c'est le cas aussi de l'Espagne.
Alors quand on parle de l'Italie, vous avez avancé quelques chiffres, on parle de 700 000 migrants qui sont arrivés depuis 2013, mais on assiste quand même à un net recul. Depuis le début de l'année, les arrivées ont reculé de 85%, notamment après les accords conclus entre le précédent gouvernement italien et le gouvernement de Tripoli. Antoine Laurent, en quoi consistent ces accords? Est-ce qu'ils sont toujours valables? Est-ce que l'Italie et Tripoli travaillent toujours ensemble?
C'est une coopération qui est toute très étroite, et d'ailleurs elle est publique, hein, il n'y a rien de confidentiel. Il y a un navire militaire italien qui assure le commandement des gardes-côtes libyens, qui est positionné à Tripoli, qui coordonne toutes les unités sur la côte ouest de la Libye. L'Italie a des agents en Libye, et chaque fois qu'il y a maintenant une détresse qui est signalée, le MRCC de Rome transfère la responsabilité aux Libyens en espérant que les Libyens répondent.
Alors l'épisode de l'Aquarius aura en tout cas été une occasion pour l'Italie d'exposer aux yeux du monde sa nouvelle politique, mais aussi d'ouvrir le débat. Claire Audier, nous sommes à 15 jours d'un Conseil européen. C'était le moment de relancer le débat. Est-ce que vous pensez que cette affaire de l'Aquarius est là aussi hautement politique et le moment a été choisi?
Probablement, mais il y a aussi cette coïncidence de l'arrivée d'un nouveau gouvernement, et certainement, effectivement, la perspective d'un Conseil européen a provoqué ce coup de force de la part du nouveau gouvernement et du ministre de l'Intérieur. Je crois malheureusement qu'il ne faut pas beaucoup attendre de ce Conseil. Le choc qu'on a tous subi, quand même, quand on regarde l'attitude, par exemple, des responsables politiques français, on s'aperçoit qu'on n'est pas forcément très très bien parti pour une prise de conscience qu'on a déjà espérée en 2015, qu'on espère à chaque naufrage, malheureusement. Et voilà, je ne sais pas si l'affaire de l'Aquarius va être le déclencheur, mais il faudra sans doute plus que la volonté des gouvernements pour que les choses changent, et peut-être un peu plus de prise de conscience de la société civile européenne de ses responsabilités face à la crise que représentent ces arrivées de migrants.
Alors, porte-parole du gouvernement français a répondu qu'il ne fallait pas créer de précédent, en fait, qu'il fallait s'en tenir aux règles internationales. On voit bien, finalement, à travers l'Italie, que ces règles ne sont pas respectées. Et du coup, on suppose que Rome a envie de faire bouger ses lignes. Et les règles que l'Italie entend bien faire évoluer, c'est notamment ce fameux règlement de Dublin. Antoine Laurent ou Claire Audier, quelqu'un pour nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste?
Mieux que moi, je pense.
Claire Audier, juste en quelques mots.
Le règlement Dublin, il consiste simplement à... Il permet à un État qui parle où arrive un demandeur d'asile de renvoyer ce demandeur d'asile dans le premier État d'arrivée en Europe. Dans son premier État d'arrivée en Europe. Et bien sûr, c'est essentiellement l'Italie et la Grèce, encore une fois, qui sont concernées, puisque pour arriver en Europe, en général, sauf en parachute, on ne tombe pas directement à Bruxelles ou à Paris. Et donc, c'est ce règlement Dublin qui est, pour une grande part, responsable de la concentration, en fait, de la plus grande partie des demandeurs d'asile dans ces deux pays qui n'ont ni les capacités politiques, ni matérielles, je veux dire, ni aujourd'hui la volonté politique, dans le cas de l'Italie, de les prendre en charge.
Antoine Laurent, pour conclure, il nous reste 30 secondes. On imagine que votre victoire à vous, ce sera évidemment l'arrivée des 630 personnes à Valence, saines et sauves, mais peut-être aussi de faire bouger les lignes, s'il y en avait une à bouger, là, peut-être fin juin, au Conseil européen. On parlait du règlement de Dublin, peut-être.
La première que SOS Méditerranée demande, c'est déjà de déployer, d'apporter une réponse humanitaire adéquate en Méditerranée centrale, parce qu'il y a des morts par centaines, et ça doit cesser. Ensuite, le reste en Europe, c'est un autre débat.
Merci beaucoup. Vous êtes responsable des opérations maritimes à SOS Méditerranée. Merci Claire Rodier, juriste experte, membre du GISTI. Merci à Eleonora Farad, Vanadis Feuille, Anaïs Chikaïa et Fabrice Violet qui était à la réalisation. Décryptage continue sur RFI.fr et les réseaux sociaux.